Bienvenue sur France Inter à ceux qui viennent d'ouvrir les yeux et les oreilles. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Christelle.
Nous sommes le mardi 28 décembre. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, nous reviendrons sur les annonces du Premier ministre Jean Castex à l'issue du Conseil de Défense et du Conseil des ministres. Télétravail, jauge, passe vaccinale, le détail dans un instant. Les autres titres, Laurence.
Concernant l'école, l'exécutif est resté fidèle à sa ligne de conduite. La rentrée scolaire est maintenue au 3 janvier. Nous en parlons avec votre invité à 8h moins 10, Yaël Gauz.
Oui, l'école ouverte, c'est son mantra depuis le printemps 2020. École ouverte à tout prix, mais à quel prix? Quand le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique rallongent les vacances, nous en France, on ne change rien. Est-ce que tout va bien, Madame la Marquise? Omicron peut-il gâcher le prochain trimestre? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera avec nous à 7h50.
Pas de couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre. Soulagement pour les restaurateurs, mais inquiétude d'un infectiologue. C'est selon lui reculer pour mieux sauter. Et puis les changements du 1er janvier, l'interdiction des emballages plastiques pour certains fruits et légumes. Sortie cinéma de la semaine, Tromperie, un film intimiste d'Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux.
Et à 8h20, nous recevrons Yaël Gauz et moi-même Sandrine Rousseau dans le grand entretien. Elle préside le conseil politique du candidat écologiste Yannick Jadot, mais elle se réjouit aussi d'une candidature de Christiane Taubira. Comment unir la gauche? Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard vient d'ouvrir.
France Inter.
Un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres hier après-midi et dans la foulée. Donc ces nouvelles annonces pour lutter contre la progression fulgurante d'Omicron. Le Premier ministre n'a pas annoncé de mesures choc, mais un arsenal de nouvelles restrictions pour les trois prochaines semaines. Pas de report de la rentrée scolaire, mais renforcement du télétravail. Pas de couvre-feu, mais des jauges pour les grands rassemblements. Résumons tout ça avec Anne Souhaitement.
Ni couvre-feu le 31.
Limitons les grandes fêtes. Portons le masque, aérons les pièces, testons-nous.
Ni report de la rentrée. Fidèle à sa ligne, Jean Castex mise tout sur la vaccination. Oui, elle protège, explique-t-il, avant de hausser le ton contre les détenteurs de faux passes sanitaires.
C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Et nous devons collectivement nous donner les moyens de l'enrayer et de le sanctionner plus lourdement.
Pas de mesures choc, mais une série de restrictions pour trois semaines à partir de lundi. Dans le viseur du gouvernement, les grands lieux de brassage, fini les concerts debout.
Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 en extérieur.
Et les endroits clos où le masque tombe plus facilement.
La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire debout, mais seulement assise.
Convaincre les Français de réduire leurs interactions plutôt que contraindre, exception faite du télétravail sur lequel le gouvernement accélère.
Le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, 3 jours minimum par semaine et si possible 4 jours quand cela est possible.
Un savant mélange entre recommandations et restrictions, énième illustration du en même temps macroniste.
Anne Souhaitement, des nouvelles mesures pour espérer donc endiguer la forte propagation du virus. Rappelons qu'à ce jour, 16 921 personnes sont hospitalisées, 1634 nouvelles admissions supplémentaires donc en 24 heures. La progression concerne également le nombre de personnes soignées dans les services de soins critiques avec 3333 patients, soit 328 nouvelles admissions. Et face à ces chiffres et aux modélisations pessimistes pour les semaines qui viennent, Éric Combe, professeur à la faculté de médecine de la Sorbonne, infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, les mesures annoncées par le gouvernement sont selon lui insuffisantes.
En tant que médecin, épidémiologiste, infectiologue, il est évident qu'on attendait plus, hein, parce que nous, ce que nous voyons arriver, c'est l'intensité de la vague Omicron. Les mesures difficiles ont été remises à l'année prochaine. Il n'y a aucune mesure qui fâche. Hein. On sent qu'on a envie de faire le réveillon du 31 en toute, je ne vais pas dire insouciance, parce que ça serait un peu exagéré. D'un point de vue scientifique, malheureusement, ça va se traduire en nombre de contaminations qui vont augmenter. Je ne vois pas très bien comment il peut en être autrement, vu la contagiosité du variant Omicron. Donc en fait, c'est un pari qui est fait, c'est-à-dire c'est un pari sur le fait qu'on peut se permettre de perdre encore une semaine. Je suis pas sûr que ça soit un bon pari. Et puis par ailleurs, un pari sur la gravité du variant Omicron, qui serait plutôt un pari sur le fait que c'est moins grave, ce qui est tout à fait possible, mais ce dont on n'est pas encore complètement certain.
Et à ce jour, rappelons qu'en France, 51 640 772 personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 76,6% de la population totale. Jean Castex a annoncé également que le délai de la troisième injection était réduit à 3 mois. Arrêtons-nous à présent sur cette rentrée scolaire qui aura donc bien lieu, comme prévu, le 3 janvier. Plusieurs voix de politiques, de médecins se sont élevées ces 2 dernières semaines pour réclamer le décalage de cette rentrée. Alors si c'est une bonne nouvelle pour les parents et pour les enseignants qui redoutent toujours de voir décrocher les élèves les plus fragiles, cette rentrée inquiète malgré tout, Sonia Princier.
Avec l'explosion des contaminations, les directeurs d'établissements scolaires s'attendent à une multiplication des absences d'élèves, des absences de professeurs. Pour Guylaine David, la secrétaire générale du syndicat du primaire SNUIPP, ne pas fermer les écoles sans prendre de nouvelles mesures va rendre la situation ingérable.
On ne peut pas reprendre comme on a terminé l'année scolaire, là, en fin d'année civile, dans la mesure où le variant Omicron va forcément engendrer des contaminations dans les écoles. Il faut revenir à la règle, un cas positif dans une classe, on ferme la classe et on met tout le monde à l'abri, on va dire, pour protéger toute la classe et éviter les contaminations. On imagine très mal comment le mois de janvier va se dérouler dans nos classes.
Inquiétude aussi du côté des collèges et lycées, même si le maintien de la rentrée est une bonne nouvelle pour Bruno Bobkevitch, secrétaire général du SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement.
On va devoir au quotidien gérer un nombre important de cas positifs. Donc pour les collèges et les lycées, il va s'agir de faire l'enquête, le contact tracing pour chacune des situations positives. Mais évidemment qu'on est un peu inquiet puisque au-delà de la satisfaction de non-fermeture, c'est évidemment une charge importante que de gérer les entrées et sorties de cas positifs ou de cas contacts dans un établissement scolaire.
Pour l'instant, pas question d'enseignement à distance pour les élèves, ni de demi-jauge dans les lycées.
Sonia Princé, une rentrée scolaire normale. Donc des restaurants et des bars qui restent ouverts, pas de couvre-feu pour la Saint-Sylvestre. C'est une très bonne nouvelle pour le patron du restaurant Le Petit Sommelier à Paris, dans le quartier Montparnasse. C'est la première fois qu'il ouvre son établissement pour le 31 décembre. Et l'idée était de marquer le coup après 2 ans de pandémie. Ses 70 couverts sont déjà réservés, soulagement de Pierre Villa-Paléja.
C'est pas une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Le fait de pouvoir ouvrir le 31, on sait que c'est toujours une soirée particulière, à la fois, bien sûr, pour le chiffre, mais aussi pour l'esprit de fête et pour la restauration, c'est une bonne chose. D'un point de vue sanitaire, je pense qu'on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire. C'est pas parce qu'il y a un 31 qu'on doit faire plus. On fera comme d'habitude. Nous, on a toujours eu du gel hydroalcoolique à disposition. On vérifie les passes sanitaires. Le personnel est masqué. Tout le monde est vacciné. Donc, c'est quelque chose d'important. Ensuite, d'un point de vue festif, c'est à nous de rassurer les gens, de leur dire qu'on fait les choses bien. Et puis après, il faut quand même être... on reste un endroit de plaisir, d'échange, de rigolade, du bon manger, du bien boire. Donc je pense déjà de bien accueillir et de leur faire passer un bon moment, mais en sécurité, je pense que c'est vraiment l'essentiel.
Des propos recueillis par Agnès Soubiran. Des frappes aériennes israéliennes ont touché ce matin le port syrien de Latakié. C'est la 2e attaque de ce type ce mois-ci contre une installation stratégique du pays qui, selon l'État hébreu, pouvait le menacer. Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis que la guerre civile a éclaté en 2011. 2 alpinistes français en difficulté sur le plus haut volcan du monde ont pu être secourus. Ils avaient entrepris l'ascension de l'Oros del Salado dans les Andes, à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Un sommet de presque 7000 mètres d'altitude. Les Français ont été récupérés très affaiblis à 5600 mètres.
Du changement dans les rayons de vos supermarchés à partir du 1er janvier, la loi anti-gaspillage votée en février 2020 entre en application.
Les fruits et légumes ne pourront plus être vendus dans des emballages plastiques, sauf s'ils sont conditionnés dans des sacs de plus d'1,5 kg. Objectif, avoir 20% de fruits et légumes en vrac d'ici 2030, contre 1 à 3% aujourd'hui. En revanche, les fruits rouges les plus fragiles pourront toujours être présentés dans leur petite barquette jusqu'en 2026. Une exception également, on en apprend beaucoup, les bottes de radis, les carottes, les poireaux, les asperges pourront toujours être attachées avec des élastiques, ne soyez pas étonnés. Le gouvernement les avait d'abord interdits avant d'y renoncer il y a quelques jours face aux pressions de la Chilière, Julien Morcelli.
Même les maraîchers les plus soucieux de l'environnement avouent ne pas pouvoir s'en passer.
Ah oui, nous, l'élastique, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix.
Anne-Laure Mérès possède depuis 2 ans une petite exploitation de carottes à la Corde-sur-Ciel, dans le Tarn.
Ça tient bien pour laver nos produits quand ils sortent de terre.
Une résistance à l'eau que n'offre pas le raffia, une fibre de palmier souvent présentée comme l'alternative aux élastiques. élastique.
Elle se tient moins bien. On doit refaire souvent les bottes des fois après le lavage, quoi. Et par contre, il faut faire 2 boucles, voire 3, autour de la botte au moment du bottelage. Donc c'est un peu plus long que l'élastique qui est autour du poignet.
Cette perte de temps rend la récolte 4 fois plus longue, selon Cyril Pogu, producteur de radis à Nantes, vice-président de la Fédération des producteurs de légumes de France.
En sachant que le prix du produit, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. Donc très vite, on en arrivera à un prix qui ne sera pas admissible.
Les producteurs de radis ou d'asperges qui ont investi dans des machines pour confectionner les bottes de légumes se retrouvent coincés.
Elles sont prévues uniquement pour de l'élastique. Elles ne pourront pas demain recevoir un nouveau matériau. C'est des machines qui coûtent autour de 500 000 euros.
Les maraîchers ont jusqu'à 2025 pour trouver un remplaçant au plastique. Pour éviter le gaspillage, certains demandent déjà aux clients de ramener leurs élastiques une fois les légumes consommés.
Et si vous trouvez encore du plastique au 1er janvier, sachez que les producteurs de légumes auront encore 6 mois pour écouler leur stock. Elon Musk dans le collimateur des Chinois. D'autres de ses satellites ont manqué de peu, selon Pékin, d'entrer en collision avec la station spatiale du géant asiatique. L'homme le plus riche du monde qui vient d'être élu personnalité de l'année par le magazine américain Time est très connu en Chine pour ses voitures électriques Tesla. Mais sa société d'exploration spatiale SpaceX lui vaut désormais la rancœur des internautes qui se sont défoulés contre lui sur les réseaux sociaux.
Au cinéma cette semaine, l'adaptation d'un roman de Philippe Roth.
Tromperie signé Arnaud Desplechin. Il détaille ce film la relation d'un romancier joué par Denis Podalydès et sa maîtresse interprétée par Léa Seydoux. Une histoire simple, assez classique, mais magistralement mise en scène, Alexis de Meyer.
Avoir des aventures pour ensuite les raconter dans ses livres, voilà comment Philippe, un Américain exilé en Angleterre, construit son œuvre littéraire. 2 ans après le polar Roubaix une lumière, Arnaud Desplechin revient avec un film d'intérieur tourné lors du 2e confinement. Une économie de moyens qui n'est pas synonyme de sécheresse narrative et formelle. Au contraire, le bureau de Philippe est filmé comme un cabinet de psy où les langues se délient.
Ah dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse ?
Non, il l'a déjà fait.
Oh, et alors ?
Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.
Léa Seydoux est particulièrement convaincante et Denis Podalydès impeccable, même si on est curieux de savoir comment Mathieu Amalric se serait emparé de ce rôle d'écrivain adultère. Tromperie signe en tout cas le grand retour d'une autre habituée de la galaxie des Plechin, Emmanuel Devos, que l'on n'avait plus vu chez le cinéaste depuis Un conte de Noël, c'était en 2008.
Tromperie demain au cinéma. Merci Alexis de Meyer.
Et merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, le Zoom, nous plongeons dans le Moyen-Âge, les oreilles d'or de l'histoire, avec ceux qui reconstituent les ambiances sonores du passé.